Alors, Ray, dans le monde du sport, on va commencer avec des choses positives. Le Canadien a quand même marqué 2 buts hier.
Oui, 2 buts de Mike Hoffman et de Rem Pytlick.
Bon.
Mais ça a été insuffisant, Stéphane.
Ah non, c'était pas assez?
Puisque l'adversaire en a marqué 4 fois plus. 8-2, la victoire du
Wild. T'es sûr de ça?
Excellente question, Stéphane.
Faudrait vérifier sur Internet.
On met 8
marqueurs différents pour le Wild, quand même.
Mais comptes-tu les buts dans le warm-up, quelque chose?
Non, non, non. ça s'est pas mal tout passé pendant le match.
Ça a bien mal été.
Oui, une soirée difficile pour le Canadien. Dominique Ducharme a dit « Celle-là va aux poubelles. On a perdu nos batailles 1-1 trop souvent et on leur a rendu la vie facile. » Josh Anderson a dit « Ça ressemblait à du hockey improvisé. » Et Josh Anderson et Cédric Paquette, après le match, ont parlé d'un long voyage difficile pour le Canadien, qui viennent de compléter une séquence de 7 matchs de suite sur la route après la petite pause qu'il y a eu, là. Mais au total, c'était un 10e match de suite sur la route pour le Canadien. Pendant cette séquence, 1 victoire, 5 défaites en temps régulier et 4 défaites en prolongation. En fait, le Canadien, hier, est arrivé exactement à la mi-saison. C'était leur 41e match d'une saison de 82. Et ils ont 23 points de classement. 8 victoires et 33 défaites. Les 8 prochains matchs du Canadien auront lieu au Centre Bell. Pour les 3 prochains, c'est sûr que ça va se faire à huis clos, c'est-à-dire jeudi cette semaine contre Anaheim. Ensuite, samedi, c'est Edmonton qui s'amène ici. Et dimanche, les Blue Jackets de Columbus. Par la suite, c'est la pause du match des étoiles pour le Canadien. Ils vont être une semaine sans jouer et vont reprendre l'action dans la semaine du 7 février pour 5 autres matchs à domicile. Et là, le Canadien a espoir de pouvoir accueillir des gens dans les gradins du Centre Bell. Jeudi, ce sera le premier match au Centre Bell du Canadien depuis le 16 décembre dernier. C'est pas l'idéal, puis en plus, bien, on connaît la réalité du Canadien. C'est une saison extrêmement difficile. Hier, Caden Primo a joué les 2 premières périodes, donné 5 buts sur 32 lancés. Pas tous des beaux buts, là. Il y a 5e but a été marqué du coin de la patinoire. Et elle aurait pas dû rentrer, cette rondelle-là.
Ouais, mais le but, là, le gars qui a marqué son premier... Moi, j'écoutais rien qu'un petit bout. Ils ont scoré 2 buts collés en quelques secondes. Là.
Le Wild.
Oui, c'est ça. Il y en a un qui a pris un shot en rentrant dans la zone.
Ouais.
Primo était déjà à terre.
The War.
Tout le monde le sait, ils sont toujours à terre.
Ouais.
Il est tout le temps à terre. Vous regarderez, là, tous les buts, ils ont pas sauté des épaules. Sauf quelques-uns, là, mais il est tout le temps à terre.
Donc, en 3e, c'est McNiven qui est venu jouer. Lui a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Et il a donné 3 buts sur 7 tirs. On est quand même rendu au...
Il en a arrêté 4.
4e, 4e et 5e gardien du Canadien.
5e.
Donc, c'est ça, là. Primo 4, McNiven 5.
5, c'est ça.
Fait que... On n'aurait jamais dû changer vous caler.
39-21, le Wild a dominé au chapitre des tirs au but. 8 marqueurs différents pour Minnesota dans le match d'hier. Également, Ligue nationale de hockey, ben il y avait 6 autres parties. Keith Yandle, qui est un défenseur américain, a égalé une marque que l'on pensait inatteignable lorsqu'elle a été établie il y a de ça 35-40 ans même par Doug Jarvis, nombre de matchs consécutifs joués dans la Ligue nationale de hockey. Doug Jarvis avait éclipsé la marque d'un dénommé Gary Unger à l'époque et Jarvis avait arrêté le compteur à 964 parties consécutives jouées dans la Ligue nationale de hockey. Hier soir, Keith Yandle, qui évolue maintenant avec les Flyers de Philadelphie, a joué 964e match de suite et donc au prochain match des Flyers, va devenir l'homme de fer de la Ligue nationale de hockey. Puis il va améliorer cette séquence-là. Je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'il est en fin de carrière. Keith Yandle, il a des contrats d'un an depuis quelques années de mémoire.
C'est un
patineur très élégant, Keith Yandle. Puis hier, on a remontré des séquences de sa carrière. Il avait entre autres reçu une rondelle en pleine bouche avec les Panthers de la Floride. Il avait complété le match, son chandail en sang avec un grillage complet. Et là, on pensait que sa séquence allait s'arrêter, mais il a joué le match d'ensuite. C'est clair qu'à 964 parties de suite, ça dure, c'est une douzaine de saisons, là, cette séquence-là. Il a joué des matchs amochés avec une cheville qui fonctionne pas, ou le visage tuméfié un peu. Il faut le faire. C'est une belle longue séquence. Faut que tu gardes ta job, premièrement, dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas évident.
Ouais, puis l'autre affaire, les Flyers ont pas été dans un épisode COVID.
Oui.
Fait que, mais peut-être que si lui, il a eu la COVID, on le sait pas.
Ben, il a pas manqué de match à tout le monde.
Non, mais c'est parce que les Flyers, on avait arrêté. Ils ont arrêté quand même pendant un bout de temps.
Ouais.
Peut-être que ça lui a donné ce break-là.
Il y a eu des breaks, c'est sûr. En 12 ans, il y a eu des bonnes séquences. Mais il y en a un dans la Ligue qui s'approche de la séquence de maintenant Yandel et Jarvis. Et c'est le bon vieux Phil Kessel qui en manque pas de partie, Phil.
Non. Il manque pas le buffet non plus.
Il manque pas le buffet, il manque pas de partie.
Il y a toujours de la bouffe à l'aréna.
Il manque un peu de patins, mais c'est pas grave, ça. Il est toujours là. Puis son nom circule, Kessel, dans les rumeurs transactions. Une équipe qui a besoin d'un marqueur, on fait des farces, là. Mais une équipe qui a besoin d'un marqueur, il peut aider une équipe.
Il est capable d'en scorer encore?
C'est un droitier.
OK.
Puis, oui, il est encore capable.
OK.
Là, il joue en Arizona, Kessel, depuis quelques saisons. Ouais, c'est ça. C'était pas évident, hein? il a passé de belles saisons avec les Penguins de Pittsburgh, entre autres. Avec les Leafs, ça a été plus dur. Quand il est arrivé à Toronto, je me souviens, Kessel, milieu des années 2000, ça, de mémoire, peut-être un petit peu après. Puis on lui avait mis beaucoup de pression parce qu'il était devenu le joueur clé, un des deux joueurs clés des Leafs. Et il y avait de la misère avec ça, la pression de Toronto. Il en a bougonné une shot. Il est capable de bougonner, Phil. Le matin, quand il se réveille, moi, c'est le genre de gars, je pense, qu'il faut que tu lui laisses un peu de temps avant de partir la journée. Mais il y a une bouille sympathique, pareil, Phil. Et donc, il est à 940
à Toronto, là, la pression, il n'avait pas été échangé contre des bons joueurs aussi.
Oui.
C'était une
les
transaction.
Il se cherchait pas mal aussi.
Oui, c'est ça. Je me souviens pas qui, là, mais il me semble que c'est une transaction aujourd'hui, on pourrait dire, on n'est pas sûr que c'était un bon move. Là.
Non. Les Flyers, hier, ont perdu un 12e match de suite, soit dit en passant. Le changement d'entraîneur n'a absolument rien donné à Philadelphie. Vous vous rappelez qu'Alain Vigneault a perdu son emploi il y a de ça quelques semaines. Dans les faits, a signalé hier Ligue nationale de hockey, un premier marqueur de 30 buts, c'est Chris Kreider avec les Rangers de New York qui ont gagné 3-2 contre les Kings en tir de barrage. Il y a eu deux jeux blancs, un de Robin Lehner avec Vegas contre Washington, 34 arrêts, et un autre de Pavel Francouz avec l'Avalanche du Colorado, 2-0. Contre Chicago, 24 arrêts pour le gardien de l'Avalanche. Et dans ce match, Colorado a prolongé à 16 sa séquence victorieuse à domicile. C'est la cinquième plus longue de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et puis, en début de soirée, Boston a perdu 5-3 contre Anaheim. Dans ce match, Troy Terry a marqué son 23e de l'année pour les Ducks. Et Matthew Tkachuk s'est payé une soirée de 5 passes hier dans la victoire de Calgary, 7-1 contre Saint-Louis.
Oui, Pierre, juste une seconde.
En septembre 2009... Les Bruins de Boston ont envoyé Phil Kessel aux Leafs de Toronto.
Ah oui, c'est vrai.
En retour d'un choix de première ronde qui est devenu Tyler Seguin. Juste ça, c'est un vol. Un choix de deuxième ronde qui est devenu Jared Knight.
Tyler Seguin n'a pas eu une excellente carrière.
Moi non plus, je suis pas d'accord avec toi.
Puis ajoutons Dougie Hamilton à ça aussi, l'autre choix de première ronde.
L'autre choix, OK. Donc c'était des choix de repêchage.
Mais Tyler Seguin, c'est pas une belle carrière, non?
Non. Oh, moi, je trouve pas.
OK.
Pas tant que ça.
Mais mettons si tu ajoutes Dougie Hamilton.
Oui, il est quand même bon, là. Mais, OK, non, mais c'était pas un vol d'abord.
Je suis surpris de vos réactions, mais c'est correct, c'est bien correct.
Okay. Ah non, mais Tyler Seguin, il joue avec les Stars, puis moi, je les suis un peu, là.
Ouais.
Il lâche en patin.
Ah, ben là.
Lui, il veut jouer juste quand ça compte pas. C'est à 8-2 hier, là. Lui, il aurait marqué le goal 7 et le goal 8, puis peut-être d'un filet désert.
Okay.
S'il avait enlevé le goal 1. C'est son genre.
La Québécoise Émilie Castonguay est devenue directeur général adjoint chez les Canucks de Vancouver hier, à l'âge de 38 ans. La jeune dame native d'Outremont devient directeur général adjoint, mais il n'y a pas de directeur général encore chez les Canucks. Mais on réglera ça après, là. C'est pas un détail. Je fais une blague. C'est une belle embauche pour Madame Castonguay, qui est agente de joueurs depuis quelques années. Bien sûr que le joueur le plus connu dans son agence, Momentum Hockey, c'est Alexis Lafrenière. Il y a quelques Québécois, dont Jacob Pelletier, Marie-Philippe Poulin, qui font partie de l'écurie Momentum Hockey. Madame Castonguay rêvait d'aller vivre à Vancouver dans sa vie. Ça donne que c'est aussi son emploi qui va l'amener à Vancouver, mais c'était un de ses rêves d'aller s'établir et vivre à Vancouver éventuellement.
Est-ce que tu sais pourquoi? C'est un rapport avec sa sœur.
Oui, sa sœur qui est décédée
dans un accident de voiture.
Sa sœur lui avait dit, tu vas devenir DG des Canucks. C'était une des dernières discussions qu'elles ont eues.
Ah ouais, OK.
Et c'est comme ça, oui. D'accord. Sa sœur, est décédée jeune, là, dans la vingtaine, effectivement. Elle a joué au hockey, Émilie Castonguay. Elle a joué avec l'Université Niagara. Elle a, dans son CV, un baccalauréat en finance, un diplôme en droit de l'Université de Montréal, et elle est membre du barreau également. C'est un nom qu'on entend depuis quelques années dans les cercles du hockey. son nom avait circulé dans les rumeurs entourant le Canadien. Des rumeurs entourant le Canadien, il y en a deux ou trois à l'heure. Alors, mais elle n'a jamais été considérée pour le poste de directeur général du Canadien. Mais la voici maintenant avec les Canucks de Vancouver. Outre ça, bien, la nuit dernière, Denis Shapovalov, au tennis, s'est chicané avec l'arbitre. Et résultat, il a perdu en 5 manches contre Raphaël Nadal. Nadal avait gagné les 2 premières manches, 6-3 et 6-4. Shapovalov est bien revenu en gagnant les manches 3 et 4, 6-4 et 6-3. Puis à la 5e manche, Nadal a distancé Shapovalov 6-3 en 4h08. Shapovalov a quand même tenu son bout contre le 6e joueur mondial et bien sûr un des meilleurs de l'histoire. Mais quand je vous dis que Shapovalov s'est chicané avec l'arbitre, c'est qu'à partir de la 2e manche, début de la 2e manche, tu voyais que ça tracassait Shapovalov, puis finalement, bien, ça a sorti. Il a demandé à l'arbitre, pourquoi est-ce que si tu l'avertis pas, je vois le vert. C'est un peu ça qu'il a dit, là, dans ses mots à lui, parce que Nadal prend beaucoup de temps, soit en retour de service, ou encore à son service. Nadal prend du temps. Puis il y a une horloge, maintenant, pour que le jeu s'accélère un peu. Au lieu de 4h08, là, ça pourrait durer 5h15, c'est ça que ça veut dire, mais il y a une horloge. Entre chaque point, tu dois te réinstaller, autant au service que en réception de service. Et Shapovalov reprochait à Nadal que ce soit trop long. Et c'est un peu une réputation que Nadal a d'ailleurs. Et Shapovalov a commencé en disant à l'arbitre, comment ça se fait, tu l'avertis pas, donne-y un code, pourquoi tu l'avertis pas? Puis l'arbitre s'est mis à échanger avec Shapovalov. Tu sais, des fois, les officiels, ils disent, OK, c'est beau, j'ai compris ton message. Mais là, l'arbitre...
Il argumentait.
Il en rajoutait, l'arbitre du nom de Bernardes. Je sais pas s'il y a une histoire entre Shapovalov et Bernardes. Souvent, c'est les mêmes arbitres, là.
Ouais.
Et quand tu joues depuis quelques années, ben, tu vois les mêmes officiels très souvent. Il semble y avoir un petit conflit entre les deux. Et finalement, ben, Shapovalov, il n'y avait pas beaucoup de réception de l'arbitre. Il lui a dit, vous êtes tous corrompus, toute la gang, envers Raphaël Nadal. Puis il a traîné ça tout le match. Tu sais, ça ne l'a pas empêché de gagner des manches. Mais moi, je n'ai pas le choix de penser qu'en agissant comme ça, Chapeau, il se donne pas de chance. Et on sait qu'il y a un caractère bouillant. Ça l'aide très souvent sur le terrain parce qu'il est très émotif. C'est un joueur d'intensité. Mais quand tu te mets à te concentrer sur des affaires comme ça, pas le choix de penser que c'est pas la bonne façon. Mais même s'il y a probablement raison, Shapovalov.
Oui. Mais le fait qu'il soit haut classé, au classement mondial, ça peut lui donner un peu plus de droit de parler, peut-être?
Peut-être. Écoute, c'est possible, mais... Ça avait l'air à le déranger beaucoup, là, à un moment donné. Donc, tu te concentres pas sur les bonnes affaires, là. Puis, il a peut-être raison. Tu sais, honnêtement, là, au hockey, il y a plus d'appels envers les joueurs vedettes que d'autres joueurs.
C'est sûr.
Au baseball, c'est la même affaire, là. Un lanceur qui est habitué de peinturer les coins, on a souvent reproché aux arbitres d'avantager un gars comme Greg Maddux dans sa carrière. C'est des êtres humains. Donc, c'est possible que les officiels soient plus... envers Nadal,
oui.
Ou plus lousse un peu, là, envers Nadal. Ça se peut très bien. Faut pas que ça te dérange. Faut que tu réussisses à couper ce bruit-là pour réussir à finalement le battre.
Félix, surtout qu'il était revenu de l'arrière.
Oui.
Tu sais, c'est là que... Mais je comprends qu'il y a eu certaines décisions, puis là...
Ça l'a dérangé.
Ouais, c'est ça.
Ça l'a dérangé pendant tout le match.
Puis c'est pas le même arbitre auquel Shapovalov avait frappé une balle accidentellement là, en 2017. Vous vous souvenez-tu de ça?
C'est un autre. Il l'a dit, ils sont tous corrompus.
Tous. Ouais,
que, peu importe qui s'assit sa chaise, là, c'est tous des pareils. Félix Auger-Aliassime joue la nuit prochaine, 3h30 à notre heure, contre le Russe Daniil Medvedev. Ce sera un match de la ronde quart de finale.
On va écouter ça la fin ici en studio?
Probable, oui.
Ouais, hein?
Le matin.
Les games de 4h.
Il y a bonne chance que ce soit pas fini. Tu vois, il y en a un match là présentement. Berrettini contre Monfils.
OK.
C'est un match de quart de finale. Ça va ressembler à ça demain, F2A contre Medvedev. Puis je termine avec deux, trois choses. D'abord, c'est à 11h ce matin qu'officiellement, l'équipe canadienne de hockey masculine sera dévoilée. Mais hier, il y a quelqu'un qui a échappé à un tweet sur le site de la Fédération internationale de hockey. Probablement que c'était prêt. Puis, il y a un smat qui a pesé sur le bouton send trop vite. Et il y a des journalistes aux aguets qui ont vu cette publication qui a duré quelques secondes.
Mario Lemieux.
Et donc, on a la composition de l'équipe canadienne ce matin.
Ben
Mario
vas-y,
Lemieux n'y est pas.
Non?
N'y est pas, non, okay. N'y est pas.
Qui d'autre?
Juste que je le
retrouve, qui est pas là?
Là.
Maurice Richard.
J'avais mon tweet, puis je l'ai effacé, mais il est ici dans le journal. Alors, les gardiens, c'est Devon Levi, Matt Tompkins et Édouard Pasquale. C'est lui qui était avec l'équipe Canada Junior quand même.
Lui, on peut l'étiqueter comme numéro un parce que les deux autres,
Tompkins, il joue en Suède avec Frölunda, sauf erreur, et il a une très bonne saison.
OK.
Je connais pas assez...
Frölunda,
pour te dire si ça vaut la peine, un gars qui a du succès dans la Ligue de la Suède, d'y faire confiance pour les Olympiques.
Ça doit être les Killers de Frölunda.
Probablement, Stéphane. Il y a 8 défenseurs avec l'équipe. Brendan Gormley, Alex Grant, Owen Power, qui a été le premier choix au dernier pêchage de Ligue nationale de hockey, Tyler Waterspoon, Matt Robinson, Mark Barberio, Maxime Noreau et Jason Demers.
Quand même des noms qu'on connaît, par exemple.
Il y a 5 joueurs comme ceux qui ont joué dans la JMQ. Ouais. En attaque, Daniel Carr, Carbon Knight, Ben Street, Jack McBain.
Carr Street.
Eric Stahl.
Bon.
Adam Tambellini, Eric O'Dell. Daniel Winnick, Adam Cracknell,
yes.
Mason McTavish, Landon Ferraro, David Desharnais, Jordan Wheel et Josh Osang.
OK.
Voici donc la composition.
Fait que ça fait combien d'attaquants, là?
Ça n'en fait 14, sauf erreur.
Okay. Allez, McDonald fait l'équipe.
25 joueurs total, puis ils ont droit à un taxi squad.
De 5
joueurs.
6, OK.
Oui, pour les Jeux olympiques. C'est à 11h ce matin qu'on va officialiser le tout. Ça a été officialisé sur les médias sociaux hier, pas mal. Et ce soir, 18h, bien, on connaîtra les nouveaux intronisés au Temple de la renommée du baseball. C'est là qu'on saura si Roger Clemens et Barry Bonds vont y accéder, puisque c'est leur dernière chance.
Il flirte, hein, avec les 15.
Oui, il y a David Papillortiz également qui pourrait entendre son nom pour être intronisé éventuellement au Temple de la renommée du baseball.
Il n'est pas mort, lui, David Ortiz.
Non, c'est vrai, il s'est fait tirer voilà, une couple d'années.
Il s'est fait tirer par un mari cocu, hein, c'est ça? Hein?
L'histoire un peu louche, mais ça ressemble à ça, Stéphane. On n'a pas eu tous les détails. Toi, tu sembles en avoir quelques-uns.
Ben,
ou en tout cas...
Le cocu.
Ça fait bien pour un matin.
Oh oui, c'est ça.
Mais c'est ça, c'était une histoire de. Ça ressemblait à une histoire de.
De ça, hein?
De conjointe, ex-conjointe, peut-être conjointe, ou t'as pas d'affaires là.
Genre. C'est ça. T'es allé fouiller d'une place où t'avais pas affaire.
Et voilà.
C'est mon David. Pouf.
Il mérite d'être là, papy, moi, je pense.
Oh oui, absolument.
Pour
ben,
l'ensemble de son œuvre.
Mais le gars, il a pas poigné la balle souvent que ça mite.
Non. C'est ça. C'est un frappeur de choix.
Exactement. Il allait là juste avec son bâton.
On va dire aussi que Curt Schilling passe pas. Mm-hmm. Je pense que c'est sa dernière année aussi, Schilling.
Hier, là, on semblait pas en parler ben de Curt Schilling. Bonds et Clemens sont intrigants.
Ouais.
C'est à 18h ce soir qu'on va connaître tout ça. Mais David Papillortiz, il a vraiment redonné un élan aux Red Sox. Là. Écoute, pendant des années, on est allé à Fenway Park. Là. Des 34, ils en ont vendu. Puis quand Papy s'installait au marbre, là, tu sentais la vibration dans le Fenway Park. Il était aimé en baptême. Là. Il a fait des bonnes choses, là, papy. Là. Souvenez-vous, là, c'est après le marathon de Boston, après les attentats. C'est lui qui a pris le micro sur le terrain à Fenway Park.
Oui, absolument.
Puis il a comme rassemblé le monde avec son discours.
Puis Boston Strong, ça c'est né là, ou à peu près. C'est quand même une tournure de phrase qu'on utilisait beaucoup. Mais effectivement, c'est Ortiz qui avait parlé aux gens de Boston pour qu'on reste debout et qu'on reste fiers de la ville de Boston. Alors voilà pour l'essentiel dans le monde du sport ce matin. On s'arrête, il est 7h02. Belle journée aujourd'hui, malgré que la petite neige ce matin, là, mais ça va être confortable à l'extérieur. Alors, profitez.